Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Aujourd'hui, on est au 16e épisode, ça fait un moment. Bienvenue Stéphanie.
Bienvenue Hans.
Toujours content de te voir. Voilà, aujourd'hui, d'abord nous allons discuter avec Latifa, qui se trouve au bord du spectre, je pense. Voilà, et j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas très bien. Voilà. En tout cas, on aura Latifa du Spectre qui va nous parler de leurs aventures. Et par après, on a un entretien avec Aude qui va nous parler d'une entreprise d'armement qui s'appelle OIP Elbit qui a besoin d'un dédommagement émotionnel.
C'est ça.
Vous allez découvrir tout ça. Mais d'abord, on essaye d'appeler Latifa un instant.
Allô.
Bonjour Latifa, c'est Hans ici de Radio Free Gaza.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Est-ce que vous m'entendez bien comme ça?
Oui, tout à fait.
Ok, merci. Merci.
Bonjour Latifa, c'est Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour. Première question, comment vas-tu?
Très très bien, parce qu'en fait il y a juste à l'instant, en fait on a été rejoint par les bateaux Family, Alma et d'autres bateaux.
Super.
Donc c'est vraiment là, on vient juste de se rencontrer il y a 5 minutes, quoi. Et donc je sens autour de moi que tous les participants, ben ça nous donne plus de force en fait.
Ouais, ça doit être une impression, une chouette impression après toutes les difficultés,
oui,
tous les retards que vous avez eus.
Ouais. Exactement.
Et vous trouvez où? Enfin, je veux dire, à quel niveau à peu près maintenant?
Nous sommes toujours large de la Tunisie,
oui.
Un peu plus haut que Tunis. Enfin, on s'est donné un point quelque part. Je ne saurais pas,
oui,
vous dire exactement.
Non, mais
on
c'est
s'est
pas
donné
grave.
Un point quelque part. Mais on est toujours au large de la Tunisie.
D'accord, oui, c'est ça. Et donc, c'est un point de rassemblement, j'imagine.
C'est ça, exactement.
Ouais. Oui, puisque tout le monde ne le sait peut-être pas, mais en fait, les bateaux ont commencé à quitter les différents points de Tunisie hier en fin de journée pour certains. Toi, le tien était dans les premiers, dans ceux qui sont partis pendant la nuit
En fait, nous sommes partis avant-hier, à 2h40 du matin.
Oui.
Nous étions partis, mais nous avons dû faire demi-tour parce que deux participants ont dû se rajouter à notre bateau. Donc, on a dû retourner pour pouvoir les accueillir.
D'accord. OK. Ça explique.
Voilà.
Oui, je comprends.
Oui.
Oui.
Mais voilà.
Oui, oui, mais c'est parce que les bateaux continuent de quitter la Tunisie petit à petit en ce moment.
Oui.
Donc,
oui.
Et d'ailleurs, on les voit sur le tracker maintenant. Hein, ça, c'est super chouette. Dis-nous, c'était quoi votre journée aujourd'hui, du coup?
Alors, aujourd'hui, pour ma part, c'était mon tour de cuisine. Donc,
ouais,
j'ai dû cuisiner. Donc, voilà. Sinon, on a commencé la journée avec une réunion.
Ah oui.
Parce que comme il y avait justement donc les nouveaux qui sont arrivés. Donc, c'est un rappel de sécurité, de tout ce qu'il fallait faire à bord.
Oui.
Voilà, parce qu'en fait, on a doublé aussi notre capacité. Nous étions 10 en partant de Barcelone. Maintenant, nous sommes à 22.
Oui, effectivement, ça fait une différence.
Voilà. Donc, c'est toute une réorganisation. Et donc, on a fait une réunion. On a commencé avec cette réunion-là. Ensuite, moi et une des participantes brésiliennes, on a préparé le repas du midi pour tout le monde.
C'est cool.
Ouais, voilà. Et là, on est juste devant tous les bateaux et vraiment tout le monde est content et heureux. Parce que ça, c'est vrai que la semaine en Tunisie a été un petit peu longue avec tous les événements qui se sont passés.
Oui, certainement. Oui, oui. Dis-nous, qu'est-ce que vous emportez en fait sur le bateau? Parce qu'on sait que la flottille, c'est une mission humanitaire. Mais est-ce que tu sais nous dire plus ou moins ce que vous emportez?
Oui, nous avons emporté des denrées alimentaires, des médicaments, des appareils médicaux. Je ne sais pas vous dire exactement ce que c'est parce que tout est emballé. Mais nous emportons, voilà. Et je pense... des médicaments également.
Ouais. Et tout ça a été contrôlé au moment de l'embarquement, hein, c'est ça, hein?
Oui, bien sûr. Ça a été contrôlé et à Barcelone et en Tunisie aussi.
Ah oui, évidemment. Évidemment, c'est oui, autant de pays, autant de contrôles, c'est logique.
Oui, c'est normal.
Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez le temps de regarder un peu ce qui se passe au niveau des nouvelles, de l'actualité, de ce qui se passe à Gaza pour le moment ou pas du tout? C'est compliqué.
Oui, non, on a du temps. En fait, c'est-à-dire qu'on a des moments où on a par exemple des entraînements, on a des réunions, on a des tests, c'est-à-dire qu'on nous fait des simulations pour voir si on est prêt. Donc, mais entre tout ça, on a du temps, soit pour faire des vidéos pour les réseaux sociaux, ou pour regarder un peu ce qui se passe aussi pour l'actualité, pour voir ce qui se passe en Europe et ailleurs par rapport à la situation en Palestine.
D'accord. Ouais. Mais donc vous n'êtes pas tout à fait coupé du monde sur votre bateau?
Non, pour le moment, non. On a de la chance d'avoir encore du Wi-Fi. Pour le moment, on a encore nos téléphones et le Wi-Fi. Ouais. Donc, ça va.
Il est possible que ça ne dure pas?
Excusez-moi?
Il est possible qu'à un moment donné, vous perdiez cette connexion?
Oui, c'est possible. Si, parce que comme c'est le système de Starlink, peut-être que ça peut être brouillé, je suppose.
Ah oui.
Et donc, peut-être qu'on peut perdre à un moment donné le contact.
Ouais, j'imagine que... Ouais, il y a beaucoup d'incertitudes, mais... D'accord.
Exactement. On ne sait pas quand ça peut se passer. On a bien sûr aussi des gardes de nuit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quatre personnes, dont deux personnes qui aident... Enfin, une personne qui aide le capitaine et deux personnes qui surveillent le bateau la nuit.
Ouais, bah oui, évidemment.
Ouais.
On imagine. Écoute, en tout grand merci de nous avoir fait un peu vivre ta journée et nous transmettre un peu de l'expérience que vous vivez et de cette mission. On continue à vous soutenir, à vous suivre sur les réseaux sociaux
merci
et partout
beaucoup.
Où on peut. Et on est là.
Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup, Latifa.
Merci, au revoir.
Au revoir. Voilà, alors on va passer à l'entretien avec Aude.
Il y a un petit théâtre ici. Hein.
Alors, bonjour Aude. Est-ce que tu peux commencer par juste te présenter brièvement?
Donc moi c'est Aude, je suis militante à Bruxelles et je soutiens la création d'une campagne contre Elbit System suite à, j'en parlerai un peu après, mais suite à un procès qui a intenté contre plusieurs activistes ici en Belgique.
D'accord.
Suite à un blocage d'une usine.
D'accord. Justement, allons-y alors. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer cette action, ce blocage et ce procès, donc, si tu veux bien.
Alors, l'action a eu lieu en mars 2024. Il y a eu une centaine d'activistes qui ont bloqué une usine qui appartient à OIP. OIP qui est une filiale en fait d'Elbit System qui est à Oudenaarde. Donc en Belgique, il y a deux sites. Il y en a un à Tournai qui est principalement du stockage d'armement, et il y en a une à Oudenaarde où là c'est pas de, il y a pas de pièces qui sont stockées, mais il y a pas mal d'employés qui travaillent, et donc les activistes ont bloqué pendant une demi-journée voire la journée entière. En mars 2024, il y a eu plusieurs arrestations, plusieurs dizaines d'arrestations, et sept personnes, pardon, ont reçu il y a déjà plusieurs mois une citation à comparaître pour un procès qui est lancé donc au civil, c'est un relais civil, donc suite à une plainte de OIP dont le CEO s'appelle Freddy Bursleus. Contre cette du coup activiste, et ce qui est demandé c'est des dommages, donc ils demandent jusqu'à 100 000 euros de dommages moraux et matériels suite à l'incapacité des travailleurs de pouvoir aller bosser ce jour-là, sachant qu'il y a pas eu il y a pas eu de sabotage, ça a vraiment été une manifestation et un blocage de l'usine, mais les activistes ne sont pas rentrés. Et il n'y a pas eu de casse.
Oui, d'accord. Et donc, dommages moraux, donc. OK. C'est intéressant. Parce que
émotionnel, il mettait dans la toute première
émotionnel,
lettre.
Mon Dieu.
Il y avait le terme émotionnel, oui.
C'est assez incroyable, parce que justement, la question suivante, c'est pourquoi Elbit ? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette entreprise ?
Alors, Elbit, donc OIP, c'est ils essayent parfois... C'est une filiale, c'est une filiale d'Elbit qui est détenue à 99,95% par Elbit System, qui est la plus grosse entreprise d'armement israélienne. Et donc, c'est Elbit System, c'est pour ça qu'on s'en est pris à OIP, mais en effet, la campagne est contre Elbit, la campagne qu'on lance du coup suite à ce procès. Elbit System, c'est une machine de guerre à profit israélien qui opère depuis maintenant des années. C'est la plus grosse entreprise d'armement israélienne. Elle produit par exemple 85% des drones et la majorité de l'équipement au sol de l'armée israélienne. Il y a un récent rapport de Francesca Albanese que je vous invite à lire, qui est sorti le 30 juin, il me semble, qui fait état un peu... donc Francesca Albanese, c'est la rapporteure spéciale aux Nations Unies.
Oui, tout à fait.
Concernant la Palestine, et elle a sorti donc le 30 juin un rapport concernant qui détaille un petit peu le profit qu'Elbit fait suite à la machine de guerre israélienne qui, depuis quasiment 2 ans de génocide maintenant, génère des profits monstrueux, mais qui suite à la colonisation qui a quand même lieu depuis 48 maintenant, ils ne s'empêchent pas de faire du profit depuis des années. Ils n'ont pas attendu le génocide. Et alors, il y a eu plusieurs conventions qui ont été signées et même resignées par l'Union européenne concernant le fait qu'en fait, Elbit produit des armes qu'on appelle... Il y a les munitions à fragmentation qui sont des armes illégales aux yeux du droit international.
Oui, tout à fait.
L'Union européenne a signé plusieurs conventions dans lesquelles elle interdit l'usage de ces armes-là. Après la signature de ces conventions, il y a quand même eu il y a eu des procès qui ont suivi pour ça, que l'Allemagne a produit notamment ces munitions, qu'il y a eu du transport d'armes à fragmentation, et après l'Union européenne a resigné ces conventions-là, mais qui ne sont visiblement pas respectées, et en fait Elbit produit toujours énormément sur le sol européen. Il y a un embargo sur les armes qui a été présenté comme une sanction à l'égard de l'État d'Israël, ce qui est vraiment de la poudre aux yeux. C'est purement et simplement du respect du droit. Alors, ils présentent ça comme des sanctions progressistes. Ça n'est pas du tout le cas. En fait, la Belgique daigne enfin possiblement se plier à des conventions internationales, dont l'embargo sur les armes, mais il n'a pas été question de la production d'armes via des entreprises israéliennes sur le sol belge, oui. Alors qu'on sait qu'elles génèrent du profit directement à la machine de guerre coloniale israélienne.
Oui, d'accord. C'est très intéressant. Le rapport de Francesca Albanese que tu cites, il est disponible en ligne. Et donc, on pourra mettre le lien sur Radio Free Gaza sur le site internet lorsqu'on présentera l'émission où cet enregistrement sera diffusé. Comme ça, les gens pourront aller le lire aussi. Que peut-on faire pour vous soutenir activement ? Quelles sont vos demandes ?
Alors, on a lancé la campagne un peu. Le procès aura lieu le 17 février.
Oui. Où ça?
Il aura lieu à Oudenaarde, okay. Il me semble. Je ne me souviens plus, mais toutes les informations sont sur. Donc, il y a un site web qui a été lancé, c'est www.stopelbit.be.
Oui.
Là-dessus, il y a beaucoup d'informations concernant Elbit, concernant la campagne, concernant le procès. Mm-hmm. Donc ça, je vous invite à aller le voir. Il y a un Instagram aussi. Là-dessus, on explique un peu les possibilités de soutien, que ce soit par le partage de la campagne, par des dons aussi. Mm-hmm. Il y a un numéro de compte qui est mis parce que les frais de justice sont pour l'instant estimés à 50 000 euros. Oui. Mais donc voilà, il va falloir qu'on travaille pour pouvoir payer tout ça parce que c'est beaucoup de sous et qu'il est absolument hors de question que des activistes qui ont fait, qui ont dû, enfin. Je pense que parfois, c'est un peu compliqué aussi pour des activistes qui se font accuser comme ça dans de tels procès. En fait, ça ne fait plaisir à personne,
oui.
De se lever à 3h du matin pour aller bloquer une usine d'armement. Il faut bien s'en rendre compte. Et donc, il est hors de question que cette personne qui a été choisie comme ça de manière arbitraire doive payer des frais de justice, voire même si le procès est perdu, des dommages, intérêts et moraux à une usine. À une usine d'armement israélienne en plein génocide, c'est juste inimaginable.
C'est immoral.
Voilà, on vous invite vraiment à soutenir, c'est tout à fait indigne. Donc voilà, on a besoin de dons, de partage, de voilà, et le mouvement pour la libération de la Palestine plus largement a besoin de soutien aussi. On sait que là, il y a une répression assez monstrueuse concernant les manifestations à la bourse. Mm-hmm. Il y a pour l'instant 4 personnes palestiniennes qui sont enfermées en centre fermé, dont certains sont en procédure. Donc ce sont des arrestations qui, en plus d'être tout à fait immorales, sont illégales. Ça, c'est un des objectifs, c'est de tuer le mouvement de libération aussi, le retrait de statut de Mohamed Khatib. Il y a toute une série d'attaques comme ça, vraiment très claires, au mouvement de libération qui sont faites. Plusieurs tentatives de criminalisation, d'essayer de faire passer des discours anticoloniaux et antiracistes pour des discours radicaux et extrémistes. C'est vraiment de plus en plus en vogue. On penche de plus en plus vers ça et c'est vraiment extrêmement dangereux. Et donc moi, j'invite, hormis la campagne Stop Elbit, mm-hmm. qui je pense est important, et de venir au procès le 17 février, c'est aussi de pouvoir suivre des manifestations qui vont être organisées, de pouvoir être là, de soutenir les mouvements qui sont lancés par les personnes palestiniennes et les mouvements populaires qui existent, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à ce que quelque chose bouge un peu.
Oui, tout à fait. Et je me permets juste de mettre dans le package de citer Sami Doun et les poursuites contre son fondateur, son coordinateur européen qui est ici en Belgique, qui rentre tout à fait dans ce que tu dis. Et effectivement, c'est important de savoir qu'il est possible de faire des choses, qu'il est indispensable que les gens se bougent pour faire des choses et qu'ils peuvent participer à ce qui leur semble être le plus proche d'eux ou le plus possible en ce qui les concerne. Et on a tous des formes d'action différentes qui sont tous très respectables, mais qu'il faut le faire dans tous les cas, effectivement.
Oui, et qu'il faut se rendre compte aussi que les attaques qui ont lieu contre Mohamed Khatib, contre Sami Doun, c'est la première ligne, mais ça va aller plus loin que ça. Et en effet, s'il y a des attaques de dissolution, enfin s'il y a des attaques de collectives via des dissolutions comme ça, on est vraiment en train de sortir de l'état de droit purement et simplement. Et il ne faut pas croire que ça arrivera uniquement à Sami Doun. C'est déjà totalement abject que Sami Doun soit ostracisé à ce point. Mais ils ne vont pas s'arrêter là.
Oui, tout à fait.
Et ça, il faut bien l'avoir en tête.
Oui, absolument. Eh bien, écoute, voilà. Merci beaucoup pour ton temps et merci pour ces explications, Aude. Et on rappellera les différentes
merci
façons de vous soutenir sur le site internet, évidemment, quand on diffuse l'émission. Ça va ?
Super. Un tout grand merci pour
merci
l'invitation
beaucoup.
Et l'espace proposé.
Au revoir. Courage.
Au revoir.
Voilà. C'était l'entretien avec Aude.
Et donc, chose promise, chose due, puisque sur le site radiofrigaza.net se trouve, à l'annonce de l'émission d'aujourd'hui, les liens vers le site internet stopelbeat.be et le lien vers le rapport de Francesca Albanese que citait Aude.
Oui, tout à fait. On arrive de nouveau à la fin de l'émission. Demain, nous aurons un entretien avec Jonathan Piron qui va nous parler de l'impact environnemental de la guerre au Gaza. On n'en parle pas beaucoup, mais ça doit être dévastateur.
Oui, et aujourd'hui et pour le futur.
Voilà. Donc à demain.
À demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.